J'ai traîné mes baskets jusqu'à Limoges et je suis allé rue de Cité, derrière la cathédrale, plus précisément aux deux rues de Cité. Et je suis allé à la rencontre de Patrick Fournière. Patrick Fournière, c'est un bouquiniste. Il tient la librairie Un livre pour un voyage. Est-ce que c'est vraiment un bouquiniste? C'est plutôt un passionné. Un passionné d'histoire locale, la grande histoire avec un H, mais aussi de livres. Et surtout même de livres. Et nous avons déambulé dans sa librairie et entre ouvrages anciens, ouvrages plus récents, il nous a raconté certaines petites histoires qui valent le coup. Je vous laisse découvrir cette visite de cette librairie et de ses histoires. Bonjour Patrick, comment ça va ?
Bonjour Martin, je vais très bien.
Alors Patrick, toi tu as plusieurs histoires à nous raconter ?
Plusieurs histoires, je ne sais pas. Aujourd'hui, le temps peut-être s'y prête. Hein. Il fait froid, on voit pas grand monde, on a tout le temps devant nous. Eh bien, allons-y. Donc, si j'ai bien compris, cette radio vassivière a besoin de grains à moudre. Eh bien, ma première histoire, je l'ai chopée là, devant ma boutique. J'étais en train de déjeuner dans la rue Haute-Cité. Et il y a quelques gars qui étaient installés sur la table derrière nous. Et ils attendaient un quatrième comparse. Et ce quatrième comparse est arrivé bien tard parce qu'il arrivait du plateau de Vassivière. Mais alors pour vous dire où, le plateau c'est vaste, n'est-ce pas? Il était agent d'assurance. Il avait été constaté un incendie dans une ferme due à la foudre. Alors, il raconte qu'il est arrivé dans cette ferme où trois paysans à la retraite l'attendaient et puis une femme à l'âge indéfinissable. Alors, de la cour, il peut déjà s'apercevoir que la cheminée est manquante, il y a une bâche sur la toiture et bah, il monte aux étages. Au passage, il aperçoit trois lits rangés le long des murs et puis une paillasse dans le milieu. Et là, il y a quelques bassines pour récupérer éventuellement de l'eau venant du toit. Mais dans la chambre, il y a des moellons de granit et de la planche, de la volige. Et au grenier, là c'est vraiment le gros dégât avec plein de gamelles et que nécessité par une bâche qui sans doute n'était pas bien tenue. Donc, redescendu dans la salle à manger, cuisine, ils en viennent à discuter technique et chiffres. Alors, vous avez fait faire des devis, faites voir. Bon, ben, ça se tient pas mal. Qui voulez-vous faire travailler, celui-là? Eh ben, allons-y pour celui-là. Voilà, l'affaire est conclue, nous signons. Et puis, le document passe de main en main et les trois hommes signent et cet agent d'assurance veut tendre le document à la femme et le plus jeune des paysans retraités lui enlève vivement des mains. Et puis, sans chercher trop à comprendre, il laisse un exemplaire et puis il est reparti à sa voiture accompagné. Et là, il y a ce paysan qui lui dit « on ne sait pas qui c'est ». Comment ça, vous savez pas? Non, cette femme, il y a 2 ans, est arrivée devant notre porte. Un matin, en se levant, on l'a trouvée là et elle souriait. On lui a proposé un café, elle est entrée, elle n'est jamais repartie. Mais comment s'appelle-t-elle? On n'y a jamais demandé. Et elle vit avec vous? Ben oui, elle vit avec nous, elle nous prépare les repas, elle travaille avec nos jardins auprès de nos petits animaux et puis, la vie bat son plein. Eh bien, je m'appelle Patrick Fournière, j'ai pas loin de 63 ans, je suis libraire depuis 12 ans, amoureux des livres, certainement. Si je tiens autant que ça aux livres, c'est que finalement j'en étais privé dans ma prime enfance. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai satisfait largement quelque chose qui est devenu une addiction. Et je ne pourrais plus m'en passer. Le jeu consiste à trouver libre qu'on ne connaît pas, le livre qu'on ne connaît pas.
Et vous avez combien de livres maintenant ?
On suppose qu'il y a un petit peu plus de 50 000 livres ici. Et avec tout ce qu'il est possible de trouver, je n'ai jamais rien jeté, refusé ou mis de côté. Vous trouvez tous les thèmes, que ce soit les voyages, les langues, les mathématiques, l'ésotérisme, l'histoire. Et je donne une large part à la littérature locale, parce que finalement, cette région qui m'a adopté, je la connais peu, je la connais mieux maintenant à travers les livres que je peux présenter ici. C'est une région qui est très riche d'histoire.
Et vous avez commencé avec combien de livres ?
Oh, j'ai commencé avec mes livres, j'en avais peut-être 2500. Et c'est les premiers livres que j'ai pu vendre, puisque je les avais lus, je pouvais en parler. Mais en fait, je me suis aperçu rapidement que le métier de bouquiniste, c'était pas seulement de vendre des livres. Non, non. Il y a beaucoup de gens qui achètent des livres pour être lus, bien sûr, mais aussi pour être là. C'est-à-dire des livres qui décorent. Mais il y a également des gens qui collectionnent un thème sur la pêche, sur l'apiculture, mais également sur un illustrateur ou un éditeur, une édition, un auteur, bien sûr. Et là, c'est passionnant parce que moi, je ne suis jamais monté dans un sous-marin, mais quelqu'un qui s'intéresse au sous-marin peut vous en parler pendant des heures. Et si vous voulez des détails, vous pouvez le relancer dans sa passion et vous en apprenez beaucoup. Eh bien, Martin, est-ce que tu connais un endroit qui s'appelle la Chute du Poirier, en Creuse ? Entre Bourganeuf et Aubusson, il y a ce lieu dit, nommé la Chute du Poirier. À cet endroit a lieu tous les 80 ans un événement extraordinaire et peu commun. Les poiriers ont une fructification que tous les 80 ans. Est-ce vraiment des poires ? Est-ce vraiment des poiriers ? Ces arbres appelés ici poiriers tiennent plus du baobab, du séquoia et du ginkgo biloba. Ces arbres peu nombreux ne connaissent pas de frères de par le monde. Ils n'existent que là. La dernière fructification fut faible et eut lieu en 1944. Vu les événements de cette époque, il n'y a pas eu de fête notable. La prochaine aura lieu en 2024, qu'on se le dise. Ces arbres sont immenses, 100 mètres de haut environ et en moyenne. Le plus long doit être le plus grand et le plus gros arbre du monde. 150 mètres de long et estimé à plus de 1000 mètres cubes de bois, rien que pour le tronc. Ses branches, considérées, doivent doubler le cubage. Si je dis que cet arbre est long, c'est qu'il est en partie couché. Il s'élève en pente douce pour se relever et se redresser des deux tiers de sa hauteur. À la base, son diamètre est de 12 mètres. Deux véhicules, s'ils étaient autorisés, pourraient s'y croiser sans se gêner. Les premières branches font plusieurs mètres de diamètre et constituent des arbres à part entière. Tous les 80 ans, un concours est organisé dans cet arbre, ouvert à tous. Il consiste à tenter de cueillir un fruit. La hauteur n'est pas le plus périlleux, ni le volume du fruit qui tient dans la main, ni la faune spécifique qui niche dans cette petite forêt de grands poiriers, très jalouse de ses fruits et qui doivent constituer sa principale source de nourriture. Le fruit en question pousse sous les plus hautes branches, à même l'écorce. La difficulté résiste dans le fait que lorsque l'on veut saisir une poire, celle-ci effrontément se dérobe et court sous la branche. La chute est inévitable.
Et tes livres, comment t'as fait pour les acquérir ?
Oh, ben c'est très simple, les gens me trouvent dans le bottin, donc ils m'appellent suite à une succession ou à un départ précipité vers une autre région. Le livre s'est encombrant et là on me contacte pour que je vienne faire le choix et que je leur en débarrasse. Et donc quand on tombe d'accord sur un prix pour un lot de livres, eh bien je repars avec les livres.
On fait un petit tour de la librairie ?
Allons-y. Donc ici, vous avez quelques livres reliés. Là, ici, nous sommes devant le thème de la biographie, des échanges de correspondance. Ici, quelques livres qui sont bien illustrés. Là, vous avez quelques reliures anciennes également. Là, j'ai un thème sur la photographie au XIXe siècle. Et je les ai parcourus. Je ne connais rien à la photographie, mais j'ai pris conscience que ces hommes pour arriver à trouver un moyen de réaliser leurs photos, se sont frottés à bien des produits et certains ont dû se brûler, s'empoisonner radicalement pour mener à leur fin leurs recherches. Alors ici, c'est mon secteur médecine avec un petit lot sur la botanique et les plantes médicinales. Ici, sur la psychologie. À côté, j'ai les sciences humaines, la philosophie. Et juste à côté, j'ai l'ésotérisme. Donc là, par ici, vous avez Paris, la Commune, la guerre 70-71, et puis au-dessus, des ouvrages un petit peu cossus sur l'histoire également. Un jour, je surprends une vipère aspic près de la porte d'entrée de notre habitation. En fait, c'est surtout elle qui m'a surpris. Dans un réflexe, je la tue d'un coup de bâton sur la tête. Pauvre bête, aujourd'hui, je les capture et je les perds en forêt. Que faire de son cadavre qui remue encore ? Hop, par-dessus le grillage du poulailler. Les jeunes poulets de quelques mois se précipitent et piochent le corps de cette malheureuse créature sans plus de formalité. Mais v'là-t-y pas qu'une vieille poule déboule à une grande vitesse, saute au milieu des poulets en poussant un cri terrible et dans le même temps rebondit, après avoir asséné un violent coup de bec au serpent. Elle était méconnaissable, toutes ses plumes étaient comme tournées à l'envers. Les poulets, un instant resté interdit, bondir sur le serpent tour à tour pour le piquer du bec, avec toutes les plumes retournées. La poule venait de se charger de leur enseigner l'attitude à avoir face au serpent. Là ici, nous avons un secteur consacré entièrement à l'Empire et Napoléon.
Lequel ?
Le Napoléon Ier. Il n'y en a peut-être pas deux finalement. Hein. J'ai très très peu de choses sur Napoléon III.
À part la guerre de 70, apparemment.
Bien avant, à partir de 1850. Mais pourquoi il y a peu de choses sur Napoléon III ? Ça, c'est un mystère. Ici, j'ai un département sur le Moyen-Âge qui est fort, fort intéressant. J'ai récupéré une belle bibliothèque d'un professeur de Limoges. Et j'ai beaucoup d'ouvrages universitaires hein, qui sont très, très, très pointus. Alors ici, on est dans l'Infantinat, la bibliothèque des mordus, des illustrés de belle époque. Et ici, de la littérature pour les enfants, là, carrément. De la bande dessinée, avec également des pieds nickelés qui, là, sont pour un âge un petit peu plus avancé. Et par ici, la grande littérature. Nous avons un domaine technique. Alors là, dans le domaine technique, ça part des travaux de voirie, du chemin de fer, de la soudure.
La sculpture sur bois, apparemment.
Sculpture sur bois, sculpture sur pierre. Et puis, beaucoup de livres de art, là, les Masneaux Citadelles. Et là, j'ai un petit compartiment avec les Terres humaines également. Ici, vous avez Breton, vous avez Georges Perec, vous avez Bataille, Henri Michaux. J'ai pas mal de choses Henri Michaux en ce moment. Et puis, bien sûr, encore du Verlaine et du Verlaine. De belles éditions en boîte. J'ai un département sur les livres scolaires. Sur la cuisine et les vins, sur l'agriculture, bien sûr. Et puis, j'ai également sur le cinéma, la photographie. Et ici, vous pouvez contempler mon enfer. Il y a quand même un certain nombre de livres qui ont marqué leur époque. Et là, sur l'art en général, la peinture, la sculpture, l'émail, les étains, les meubles, le domaine est vaste. Très bon livre également sur l'architecture. Là, juste derrière la porte, on a le domaine de la pêche. J'ai un client qui doit posséder plus de 2000 livres sur la pêche. Mais il vient encore une fois par mois, le jour des puces. Et j'ai beau lui dire que j'ai rien mis de nouveau, il dit « c'est pas grave, je vais consulter. Des fois que j'en trouverai un qui serait mieux qu'un des miens délabré. » Alors ici, j'ai un domaine sur la montagne. Alors là, je suis persuadé que j'ai de très, très bons ouvrages, notamment une édition suisse. C'est les éditions Victor Hassinger, qui ce sont des bouquins qui ont, pour certains, déjà une cinquantaine d'années, voire davantage, et qui sont plutôt rares dans notre département.
Donc là, c'est le fameux jardin d'hiver.
C'est un rhododendron.
Il y a un rhododendron.
Et là, des tomates qui ont gelé, que je vais pouvoir tirer de là et les remplacer, parce que quand même, tous les ans, je mange quelques kilos de tomates ici.
Ouais, c'est atypique, un jardin dans la librairie.
Et oui, vous voyez, c'est fermé avec de la tôle transparente et les tomates, le rhododendron font un petit peu d'ombre. Et comme on est coincé dans les bâtiments, finalement, mes livres voient peu le soleil. Ici, j'ai un domaine sur l'Amérique du Nord, les Indiens, les États-Unis, le théâtre ici, bien sûr. Et puis là, au bout, vous avez tout ce qui concerne l'Afrique du Nord, que ce soit en histoire, en architecture et sur ses déboires militaires. J'ai un domaine sur l'Union soviétique. Je viens de me créer un domaine également sur l'équitation, sur l'Égypte. J'ai récupéré pas mal de livres sur l'Égypte. Vous avez là 4 bibliothèques qui concernent également la Première et la Deuxième Guerre mondiale. J'ai un domaine sur la musique. J'ai un domaine rien que sur Victor Hugo et un autre sur Charles de Gaulle. Et puis, j'ai un certain nombre de livres scolaires. Vous voyez, là, j'ai des reliures de Charlie Hebdo, par exemple. Et là, j'ai un vieux dictionnaire du 17e en deux volumes. Ces deux volumes, oui, il y en a peut-être pour 10 kilos, le tout.
Et puis Le magasin, il fait combien de taille?
Parce que je ne sais pas.
Il ne paye pas de mine, mais il est très, très grand, en fait.
Alors là, Martin, pour cette histoire, nous sommes au début des années 2000. Tous les ans, un vieil oncle recevait depuis une quarantaine d'années ses neveux et plus tard, et jusqu'à ce jour, ses petits-neveux. Tout ce beau monde est pris de campagne, d'air pur, d'animaux goûtaient des joies des vacances, d'été, quand arriva un événement brutal auquel personne n'aurait voulu y penser. L'oncle ne se réveilla pas un matin, laissa désemparer la petite famille de neveux et nièces. Un virage dans la vie de ces petites familles fut pris brusquement. Nous ne retournerons pas à la ville. Les deux vaches laitières trouvèrent preneur rapidement auprès des voisins qui promirent aux plus jeunes héritiers qu'ils pourraient continuer à leur donner du pain et boire leur lait. D'autant plus que les vaches gardaient leur rythme, leur pré et l'étable jusqu'à l'hiver prochain. Par contre, les petits animaux de basse-cour, poules, lapins et chiens, restaient les compagnons de jeu des petits-neveux. Mais un cas délicat embarrassa la petite communauté. Coche, la truie d'un an destinée à la boucherie, pâté et autres boudins. Compagnon de jeu favori des enfants, encouragé par les chiens que ses 150 kg n'effrayaient pas. Pas question de la tuer, le sujet frisait l'hystérie collective. La vie s'organisa pour tout ce petit monde. Inscription à l'école ne posa pas de problème majeur. Quant aux parents, ils se sentaient un tempérament de polyvalence. Tout emploi leur conviendrait. La vie parisienne leur semblait loin. Mais un beau jour, la coche refusa de manger et son comportement fit naître de l'inquiétude qui nécessita la consultation du plus proche voisin. Le verdict tomba. La coche était en chaleur. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si un mâle, un verra, grimpait dessus, la truie ferait des petits. Imaginez l'émotion chez ce petit monde, des petits cochons à nous, pour nous. Grimper la coche dans le char et tout, et aller chez le père Basile, il y a un bon père cochon. Sitôt dit, sitôt fait. C'est la stupéfaction, tant chez les parents que chez les enfants. La nuit suivante fut pleine d'interrogations, d'images et de perturbations. Mais le lendemain, toute la maisonnée en émoi courut vers la soue à cochons pour voir les petits cochons. Et la déception, pas de petits cochons. On appelle le voisin qui, très ému devant tous ses yeux agrandis et interrogateurs, ne peut que dire « Eh bien, ça ne marche pas forcément au premier coup, il faut y retourner. » La coche est grimpée de nouveau dans le charretou et le verra, qui entend de loin venir le charretou, identifie le grincement des roues à un plaisir pas souvent survenu ni proposé, s'impatiente déjà. La coche, entendant à son tour l'impatience du Vera, lui rappelant l'aventure de la veille, à laquelle elle ne s'attendait pas, saute de son véhicule pour aller au devant du nouveau compagnon de jeu. Jeu pas moins nouveau. Elle est plutôt réticente à vouloir gagner la maison et reste bien agitée toute la journée, d'autant plus qu'elle est surveillée à tout moment et par tout le monde. La nuit passée, le petit monde court à l'assaut et constate qu'il n'y a pas de petit cochon, que la porte est cassée, grande ouverte, et que la coche est déjà dans le charretteau. Alors là, c'est là où tu vas aller tout seul. Moi, je vais rejoindre là-bas. C'est à toi de te débrouiller. Et il y a un escalier au bout et tu montes.
Là, on arrive dans un... dans la réserve, voilà. Alors, c'est une réserve... comment vous dire ? Avec des mots, c'est très, très, très impressionnant. C'est tout en longueur. Et il y a tellement d'étagères. Enfin, c'est des étagères faites à la main, on voit bien. Avec des moyens de récupération. Mais il y a tellement, tellement de livres. Que, bon, je suis pas extrêmement large, mais c'est extrêmement... Enfin, pas extrêmement, en fait. Il faut que j'arrête d'utiliser le mot extrêmement. C'est pas facile de passer entre les rayons. Et là, je vous dis, c'est sûr, vous avez quelque chose à vouloir. Enfin, un livre qui vous intéresse, c'est sûr qu'il y est. Ça demandera pas mal de recherches, mais vous pouvez. Alors voilà, j'arrive enfin au bout. Donc il y a 1, 2, 3... 4. Il y a seulement 4 petits couloirs pour tout chercher. On arrive au fond. Et donc, il nous a dit de prendre l'escalier au bout. Il y a un escalier. Oh là là. Alors, franchement, l'escalier, il est en béton, il paye pas de mine, mais c'est autour, quoi. Ce qui vaut le coup d'œil. Là, je vous jure, genre, tout, c'est tapissé de livres de poche.
Bon, vous savez tous que qu'une poule, ça pond des œufs et puis ça leur arrive également de les couver. Et une poule, ça doit couver plus d'une vingtaine de jours sans descendre de son nid. Elle ne s'alimente pas, ne boit pas, ne bouge pas. Et puis un beau matin, elle se dresse, chante, saute du nid, avance à petits pas et puis accélère, stop d'un coup. Et dépose là, devant vous, un gros tas de fientes nauséabondes. Et puis, de rien, elle remonte sur ses œufs, après avoir bu et mangé quelques bricoles. Mais vous recherchez cette maudite pelle qui se cache quelque part. Il faut faire un trou et enterrer au plus vite le fruit des entrailles de cette poule. La cour en peste, c'est incommodant au possible. Même l'opération effectuée, l'on reste persuadé que la poule nous en a légué un autre tas à un quelconque endroit.
Enfin, c'est... Ça, donc voilà, c'est une petite... petite bouquiniste. On a l'impression que c'est un tout petit bouquiniste dans Limoges. Mais en fait... c'est assez immense, quoi. Et il y a tellement de livres. Genre là, qu'est-ce qu'il y a ? Jean Ougron, tous les... Bon là, ils doivent aussi être. Tous les Jean Ougron. Des bouquins, ouais. Allemand, là, je vois. La rançon. Non, franchement, quand il dit 50 000, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de livres. Voilà, on continue et là, oh là là, l'étage ça continue. Ça, alors c'est la même vision à l'étage, c'est exactement la même vision qu'en bas. Là, je vous dis pas le nombre de bouquins qu'il y a. Donc oui, là encore, il y a tout, il y a des très vieux livres, des livres plus récents. Voilà. C'est franchement, même si c'est pas pour acheter, pour visiter, c'est hyper, hyper intéressant, quoi. Là, il faut plusieurs vies pour pouvoir tout lire. Les années mémoire. Il y a vachement de livres quand même sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc venez. Franchement, ça vaut le coup d'œil. Venez à Limoges, sur cette petite place derrière la cathédrale, chez ce bouquiniste, Et ben moi, j'y retournerai tout le temps pour prendre mes sources pour la préparation d'une émission qui arrivera, je ne sais pas quand, sur Radio Vassivière, mais une émission d'histoire, et pourquoi pas, d'histoire locale. Et là, j'avais des doutes, je pensais que je devrais aller surtout aux archives pour trouver mes bouquins. Mais non, enfin, sûrement aussi, mais je pourrais largement trouver mon bonheur chez ce bouquiniste, chez Patrick Fournière.
Eh bien, dans les années 75, un artisan menuisier charpentier réalise pour un paysan toutes les portes, les fenêtres, les planchers, escaliers, placards, et bien sûr, avant tout, la charpente d'une maison, avec le bois que ce paysan avait fait scier et sécher bien des années auparavant. Ce paysan avait livré un cubage important pour la réalisation de sa maison et venait régulièrement visiter l'atelier en jaugeant le bois utilisé, le bois restant. Il passait la main sur les plots de chêne à la maille luisante, au grain fin et la veine droite, et reconnaissait l'un de ces arbres à la régularité d'une écorce, à l'épaisseur de l'aubier qui pouvait bien des années après dire que cet arbre venait de telle parcelle et tel futaie. Un jour, le paysan s'aperçut que l'artisan a mis de côté des plus jolies planches et s'informe. Que comptez-vous faire avec ce choix de planches ? L'artisan bredouille, donne de vagues explications, logistiques et techniques. Le paysan comprend bien que l'artisan essaie de le doubler. Tu voulais pas une table et des bancs ? Oui, mais passe 4 ou 5. Bon, va pour 2 tables et 4 bancs, un buffet, une mets, mais avec le reste, tu me feras ma caisse. Ta caisse ? Oui. Mon cercueil est celui de ma femme. Ce qui fait qu'un jour, il fut livré 2 cercueils en chêne. Vernis, belle moulure, poignée rutilante, Christ prêt au départ, garniture de soie molletonnée, des meubles à part entière. Et c'est en acheminant ces cercueils vers l'étage que le paysan s'aperçut que la planche du fond, comme le veut la coutume, soit faite avec la plus mauvaise planche du chantier. Drame, retour chez l'artisan, changement des vieilles planches en être par 2 vigoureuses planches de chêne. Satisfaction générale, paix dans les cœurs et la nouvelle demeure. Mais où les mettre ? Eh bien, ce fut en face du lit, de chaque côté de l'armoire. Le cercueil du paysan partit le premier en 1999. Il est bien connu que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, surtout quand elles sont veuves. Si j'écris ces lignes, c'est que la paysanne s'est rapprochée de ses planches et de son mari ces jours-ci en février 2012.
Et c'était donc Patrick Fournière qui nous faisait découvrir sa librairie et son monde, un livre pour un voyage aux 2 rues de Cité, donc à Limoges. Sa librairie est ouverte du mardi au samedi de 15h à 19h et tous les jours sur rendez-vous. Vous pouvez le contacter sur son site qui est Un bouquiniste Limoges, c'est le premier. Vous trouverez de toute façon tous ces éléments sur notre site radiovassivière.com. Et merci donc à Patrick de nous avoir offert une si jolie visite, mais aussi de si jolies histoires.